Chapitre 8. Quelque chose ne va pas, se dit Alice, assise dans sa chambre tout en haut de sa maison. Hier, l'homme était assis sur la plage, sous la pluie, et cela n'allait pas. Aujourd'hui, il est dans le studio, et cela ne va toujours pas. Il ne fait rien de mal, mais il y a en lui quelque chose de dérangeant. Peut-être est-ce dû à ce vide intérieur, cette mémoire disparue. À moins que ce ne soit sa masculinité. Sans identité, il n'est plus qu'un homme, une essence brute qui ne laisse pas Alice indifférente. Elle n'a pas couché avec un homme depuis très longtemps, et cela lui manque terriblement. Son désir est le moteur qui a organisé, ou plutôt désorganisé, toute sa vie. Elle chausse ses lunettes et place la carte de Saint-Tropez sous sa lampe d'architecte. Elle a déjà dessiné le contour des pétales pour la rose et utilise un scalpel d'une main assurée pour les détacher. Saint-Tropez et ses chaises longues, ses coupes de champagne, ses piscines, ses serveurs en livrée blanche et ses hommes musclés en maillot de bain la font rêver. Elle entend le bruit étouffé des conversations autour d'elle, sent les mains d'un amant inconnu qui lui étale de la crème solaire dans le dos, mains qui deviennent rapidement celles de l'homme dans le studio. Et Alice se souvient de ses gestes habiles et puissants pour découper la tartine épaisse qu'il a mangée au petit déjeuner. De bonnes mains, de bons poignets. Puis, son imagination dérive vers son corps, qui, une fois lavé et sec, enveloppé dans le sweat à capuche de caille, n'est pas désagréable à regarder. Pas très grand, quelques centimètres de plus qu'elle seulement, mais puissant et sans défaut. Et ses yeux noisettes, adoucis par la confusion et le dénuement. Mais quelque chose a changé dans son regard quand elle a suggéré d'appeler la police. Un sentiment très différent s'est emparé de lui à ce moment-là. Un instant de peur ou de colère, révolu avant qu'elle n'ait pu comprendre de quoi il s'agissait, si furtif qu'elle se demande si elle ne l'a pas imaginé. Elle s'efforce de ne plus penser à lui. Elle ne s'intéresse plus aux hommes. Elle doit se concentrer sur ses enfants et son travail. Elle détache les pétales de papier et les aligne sur le côté de la table. La baie des Canebiers, le chemin de l'Estagnet, la rue Cavaillon. Des noms qu'elle associe aux palmiers, aux décapotables, aux stores rayés des hôtels et aux parkings avec voituriers. Elle n'a pas le droit d'être jalouse de cette vie-là. Elle qui attend ici. Et il y a même des palmiers à Riding House Bay, de l'autre côté de la ville. Deux palmiers. Alice sursaute en entendant la cloche de la porte d'entrée retentir et ses trois chiens se précipitent dans l'escalier en aboyant. Elle se lève de son bureau et jette un coup d'œil à la rue où elle reconnaît la Hoop Auburn de Derry Dine.
J'arrive !
S'écrie-t-elle. Elle doit batailler pour atteindre la poignée et tenir fermement les chiens avant qu'ils ne sautent pas sur Derry une fois la porte ouverte.
Bonjour, cher ami. À quoi dois-je le plaisir de votre visite ?
Derry regarde par-dessus l'épaule d'Alice d'un air peu amical.
J'ai vu ta fille tout à l'heure. Elle m'a dit qu'il était encore là.
Alice soupire en replaçant une mèche derrière son oreille. Elle savait qu'elle aurait dû dire aux enfants de ne parler de Franck à personne. Que Derry le sache, ce n'est pas un problème, mais les autres adultes...
Il n'est pas là, il est dans le studio.
Elle ouvre grand la porte pour permettre à Derry d'entrer.
Tu es folle,
affirme Derry en scrutant tous les recoins du salon.
Jasmine dit qu'il a perdu la mémoire.
Satisfaite de ne pas trouver l'homme dans cette pièce, elle passe par la cuisine.
Ce n'est pas si grave que ça. Mais je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Tu m'avais promis.
Rappelle Derry en observant la cour par le studio et la fenêtre.
Tu imagines si l'école apprend ça? Si, Alice, après tout ce qui s'est passé l'année dernière, tu ne peux pas te permettre d'inviter des gens louches chez toi.
Elle sait bien à quoi Derry fait allusion, mais elle n'est pas d'humeur à en parler.
Il n'est pas vraiment chez moi, il est dans le studio, et j'ai fermé la porte de la cour à double tour hier soir. Ce n'est pas ça le problème. C'est suspect cette affaire d'amnésie. Je pense qu'il ment.
Bien sûr que non, il ne ment pas. Tu penses toujours au pire, ajoute Alice, qui commence à perdre patience.
Et là, il y est ?
Lui demande son ami en attrapant deux tasses dans le placard et en allumant la bouilloire.
Je présume, je ne l'ai pas entendu sortir. Dis-lui de venir, alors.
Elle place un sachet de thé vert dans sa tasse et un sachet d'Earl Grey dans celle d'Alice, qui ne réagit pas.
Allez, dis-lui qu'il y a du thé.
Tu sais que j'ai plein de travail.
Tu le feras après, ça ne va pas durer longtemps.
Alice s'exécute. Dans leur relation, Derry a toujours raison.
Elle vérifie ses cheveux avant de sortir dans la cour. Elle met sa main devant sa bouche pour sentir son haleine et grimace. Trop de thé. Les rideaux du studio sont ouverts. Elle frappe à la porte doucement.
Franck ? C'est Alice ! Je fais une pause et je me demandais si vous vouliez boire une tasse de thé dans la cuisine.
Pas de réponse. Elle frappe à nouveau, puis ouvre la porte. Le lit est fait, les vêtements de Kai sont pliés sur la couette. Le studio est vide.
On dirait que tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Il est parti,
annonce-t-elle à Derry un instant plus tard.
Parti, parti.
Je ne sais pas. Elle remarque que la tasse dans laquelle il a bu son thé ce matin est en train de sécher près de l'évier. Elle s'approche, espérant trouver un mot, mais il n'y a rien. Une vague de tristesse et de déception l'assaille, rapidement remplacée par de l'inquiétude. Elle pense à ses yeux noisettes, à ses cheveux bouclés de petit garçon, à sa vulnérabilité. Il ne peut pas rester seul dehors, c'est impossible.
J'espère, il allait attirer des ennuis.
Oui, tu as sans doute raison. Il a l'impression de marcher sur un tapis roulant, d'être mu par des forces invisibles comme un sac de sable que l'on traîne dans la rue. Il traverse pour aller s'asseoir sur un banc et manque de se faire renverser par une cycliste transportant un gros panier de fruits. Elle le regarde bizarrement et il se demande s'il a l'air aussi fou qu'il croit l'être. Après le petit déjeuner, il est retourné dans le studio pour s'allonger. Des sensations, plus que de vrais souvenirs, l'ont submergé, comme lorsqu'Alice avait proposé de parler à la police. Des déferlantes sombres et effrayantes et le sentiment profond que quelque chose a été brisé irrémédiablement. Mais aussi des éclats de lumière vive, comme le reflet du soleil sur la carrosserie d'une voiture qui passe à toute allure. Des éclats aveuglants, déstabilisants, qui cachent, il en est convaincu, les pièces du puzzle qu'il ne peut pas encore distinguer. Il faut qu'il continue à marcher. Il faut qu'il trouve ce qui l'a poussé à venir dans cette ville. Mais, lorsqu'il se lève du banc, un nouvel éclair lumineux l'aveugle et il se rassied. Il garde les yeux fermés et se concentre pour dévoiler l'image cachée. Et enfin, il la voit. Une barre de métal torsadée. Un cheval pastel. Une fille aux cheveux châtains. Elle monte, elle descend. Elle lui sourit, lui fait un signe de la main et disparaît. Il rit devant la puissance de ce souvenir après toutes ces heures de vide complet. Enfin, merde, c'est pas trop tôt. Il se lève du banc d'un bond, attiré irrésistiblement par le front de mer de l'autre côté de la route. Il observe la plage, déserte en ce jour frais d'avril, et essaie de reconnaître quelque chose dans ce paysage, quelque chose de lié à ce souvenir qui vient de lui apparaître. Mais rien ne lui revient, et il descend les marches de pierre qui mènent au rivage, la main courant sur la balustrade en métal, de petits morceaux de peinture se détachant au fur et à mesure. Il fait attention à ne pas glisser, inspirant profondément la forte odeur de sel et de poisson à chaque marche. Est-il déjà venu ici ? Est-ce même possible ? Si c'est le cas, dans quel contexte ? Quand ? Et qui est cette fille sur le manège ? Cette jolie fille au beau sourire et aux cheveux châtains, qui vit le moment sans prêter attention à son regard ? Une vague de désespoir l'étreinte quand il pense à elle. Et son corps, qu'il ne contrôle plus, régurgite les œufs et la tartine qu'Alice lui a servie plus tôt. Il est faible, il tremble. Alors il s'assied sur la plage, comme pendant ses premières heures à Riding House Bay, et son regard se perd dans l'infini de la mer, comme s'il attendait qu'elle lui rende quelque chose.